Espace femme.
Merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous hebdomadaire Espace femme de Studio Kalangou consacré aux questions que se posent les femmes. L'esclavage moderne d'une des femmes dans les foyers polygamiques, c'est la question sur laquelle nous allons nous pencher aujourd'hui pour parler de la place qu'occupent certaines épouses dans les foyers polygames. Il faut tout d'abord préciser que le terme polygamie est couramment utilisé pour désigner le mariage d'un homme avec plusieurs femmes. Cependant, du point de vue religieux, combien de femmes la loi islamique autorise à l'homme de prendre et sous quelles conditions? Quels sont les droits et les devoirs prévus pour les femmes dans les foyers polygames? Quel est le constat qui se dégage des pratiques de la polygamie, la place de la femme dans ce genre de foyer? Quelles conséquences peuvent émaner si les droits d'une épouse sont bafoués? Peut-on parler d'esclavage moderne en ce sens et quelles solutions pour que ces femmes puissent s'en sortir? Là sont les grands points que nous allons débattre aujourd'hui. Pour cela, j'accueille ce soir au studio Maître Moutari, avocat au barreau du Niger, et Oustaz Mustapha Ahamadou, promoteur de l'Association pour la promotion de la langue arabe et l'éducation islamique Fawzia. Et à la présentation, Rafika Taher. Bonsoir à tous. Pour commencer, Oustaz, du point de vue religieux, combien de femmes la loi islamique autorise à l'homme de prendre et sous quelles conditions?
A'ouzou billahi min ash-shaytan rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Donc, merci madame de la question. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: لقد تاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع وإن خفتم أن تعدلوا فواحدة. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que c'est toujours dans le sens de préserver certaines situations telles que les orphelins pour ne pas faire beaucoup d'enfants et qu'on n'arrive pas à prendre en charge. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ces versets-là. Il dit, il est permis d'épouser parmi les femmes que vous voulez, que vous désirez, deux ou trois ou quatre. Mais il a dit à une seule condition. Donc si vous craignez ne pas faire l'équité entre elles, contentez-vous d'une seule. Et c'est le seul moyen pour que vous ne soyez pas injuste par rapport à ce que vous allez avoir comme descendance. Donc vous voyez, c'est un peu par rapport à les conditions des familles, la charge des familles, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que vous avez droit jusqu'à 4.
Maître Moutari, qu'est-ce que vous pensez de ce que Oustaz vient de dire? Qu'est-ce que la loi dit? Combien de femmes elle prévoit pour l'homme?
Donc merci madame, je confirme que dans la législation nigérienne, il y a une disposition de la loi qu'on appelle la loi sur l'organisation judiciaire au Niger qui prévoit que les matières qui concernent l'état des personnes et celles relatives à la famille sont régies par la coutume. En ce sens que ce que vient de dire Oustaz est bien entériné par la loi nigérienne que un homme est admis et autorisé par la loi selon ses moyens d'épouser jusqu'à 4.
Et toutes ces 4 femmes-là seront reconnues?
Elles seront reconnues, bien sûr.
D'accord. Et en tant que juriste, pouvez-vous nous dire quels sont les droits de la femme vis-à-vis de la loi dans un foyer polygame?
Les droits de la femme vis-à-vis de la loi, donc nous sommes un pays démocratique régi par une constitution de la République. Et dans notre constitution, celle de la 7e République, il est consacré l'égalité des hommes envers la loi. Donc, dans un foyer polygame, l'époux qui consacre l'autorité de la famille doit établir l'égalité entre ces femmes.
Est-ce que le Coran prévoit la même chose pour les femmes des foyers polygames?
Bien sûr, il y a des droits et devoirs. En termes de droits, il y a un verset du Saint-Coran, c'est le verset numéro 4 de la sourate Les Femmes, qui consacre le droit de la femme d'abord à la dot convenable. Qu'elle-même, elle se choisit. C'est parce que c'est un contrat entre vous et la femme, pas entre vous et les parents de la femme ou autre. Non, le mariage, c'est entre l'homme et la femme. Maintenant, par rapport à ça, par rapport à un autre droit encore, il y a un autre verset qui dit, et il a mis entre vous les liens d'affection et de miséricorde, de bonté, quoi. C'est-à-dire de pitié. Elle a droit à l'affection, elle a droit à l'entretien, elle a droit à la protection. Donc, ça, ce sont des droits consacrés, n'est-ce pas? Il y en a d'autres, mais aussi il y a le consentement. C'est un droit. Il faut donner le consentement. Il faut permettre à la femme de manifester son consentement. Donc ça fait partie de l'eau, des paquets de droits qu'une femme devrait avoir s'il s'agit de mariage légal en islam.
Donc toutes les femmes doivent bénéficier du même droit dans le foyer.
À part égale.
D'accord.
À part égale.
D'accord, Oustaz. La fréquence des tensions dans les familles polygames pourrait s'expliquer par la préférence marquée du mari des fois pour une femme et ses enfants ou de la domination qui viendrait d'une des coépouses. Ce qui entraînerait des fois des difficultés au sein du ménage polygame, réduisant ainsi l'autre ou les autres femmes à une autre forme de cohabitation que d'aucuns qualifient d'esclavage. Donc, comment appréciez-vous ce genre de cohabitation des femmes d'un même mari, où certaines de ces femmes sont avantagées plus que les autres? Qu'est-ce que le Coran dit par rapport à ça?
Le Coran a interdit ça. C'est une interdiction, c'est-à-dire que vous n'avez pas à différencier. C'est-à-dire c'est que même si vous dites que celle-là, elle est première, elle est la mère de mes enfants, celle-là, elle vient d'arriver, elles ont les mêmes droits du point de vue de ce que je viens de vous citer. Et si elle vient avec ses moyens aussi...
Donc normalement, le mari ne doit pas laisser faire ce genre de pratique dans son foyer parce qu'il y a des fois, c'est l'une des co-épouses, l'une des femmes qui domine, c'est elle qui dirige tout dans la maison. Et qui est fautif dans ce cas? Est-ce que c'est la faute au mari ou bien c'est la femme?
Mais écoute, dans un autre verset, Allah a dit « Arjal qawamun ala nisa bima fadal Allah ». C'est-à-dire que les hommes ont d'autorité sur les femmes. Ce n'est pas autorité en tant que dictature ou chose. Non, non. C'est-à-dire qu'ils supportent le plus gros poids, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Si la famille est dégringolée, c'est que c'est le mari qui sera comptable de ça. Parce qu'il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع في أسرته وهو مسؤول عن رعيته. C'est-à-dire vous êtes tous et chacun responsable et chacun sera des troupeaux qu'on a mis à sa disposition et vous serez demandé quelle gestion vous avez fait et l'homme est responsable du foyer, n'est-ce pas? Et il sera demandé de ce qu'il a fait comme gestion. Maintenant vous dites que est-ce qu'elle doit? Non, c'est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié l'homme qui fait ça, ou il laisse la femme dominer des choses, dit ad-dayus. La yadkhulu al-jannata ad-dayus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le dayus, c'est un père de famille, un homme, un chef de foyer, qui laisse, il ne dit rien. Non, j'ai peur d'elle, je ne peux pas. Non, c'est interdit, tu n'es plus homme en ce moment.
D'accord.
Donc voilà ce que l'islam a dit succinctement.
Donc, Maître Moutari, comment appréciez-vous ce genre de cohabitation de ces femmes?
Oui, il est vrai qu'il ne manque pas de fois que dans un foyer polygame et qu'on constate certaines tensions entre les épouses ou bien entre les enfants des épouses différentes ou bien entre les enfants et le père ou vice-versa. Et ces genres de tensions sont fréquentes, surtout dans les foyers polygames ici au Niger. Vous allez voir, et c'est là, des fois, très souvent, résulte d'une certaine iniquité constatée par certaines des épouses de la part de leur mari. Le mari, des fois, préfère l'une à l'autre ou bien l'une par rapport aux autres.
Donc, que dit la loi par rapport à ça?
Par rapport à ça, et comme je l'ai dit, la loi, notre ordonnancement juridique a prévu donc l'égalité et des hommes avec grand H devant la loi. Cela a été consacré par notre constitution. Cela a été consacré par divers engagements internationaux pris par le Niger. Je parle dans ce sens de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes. Tous ces arsenals juridiques ont prévu l'égalité des femmes. Le droit de la femme est un droit humain et que cet engagement doit être respecté par tous, à commencer par leur mari.
Nous sommes allés à la rencontre des femmes qui évoluent dans les ménages polygames. Voici leur reportage.
Je me suis mariée il y a de cela 16 ans. J'ai 4 enfants et une coépouse. Au début, mon mari et moi, on était amoureux. Maintenant qu'il s'est remarié, tout va mal. Nous faisons face à beaucoup de problèmes. Je ne comprends plus mon mari. Ma coépouse fait de moi ce qu'elle veut. Et lui, il la supporte. Je n'ai jamais raison quand je dis quelque chose. C'est toujours elle qui dit vrai pour lui. Dans la maison, c'est la jeune mariée qui dirige. Ce que je dis n'a aucune valeur. Il me fait comprendre maintenant que je ne suis rien pour lui, qu'il me garde juste pour mes enfants. Il ne fait rien pour moi et mes enfants aussi. Même si je cuisine, il ne mange pas. Je me confie à Dieu. Si je vais à la maison chez mes parents, on me demande d'être patiente. Maintenant, mes parents ne m'écoutent plus. parce qu'ils pensent que je me plains trop. Même si je veux divorcer, c'est une affaire de grand et personne ne m'écoute. Et je ne suis pas heureuse. La solution, je pense que c'est divorcer et retourner chez mes parents parce que je suis fatiguée des humiliations que je vis avec mon mari. Je suis la seule à savoir ce que je vis. Ce genre de problème, c'est vraiment trop parce que toute femme qui les vit ne sera pas tranquille, elle et ses enfants.
Maître Moutari, quelle lecture faites-vous de ce témoignage qu'on vient d'écouter?
Il est vrai que je l'ai dit tout à l'heure que très souvent, le constat de conflit dans un foyer polygame résulte en grande partie de l'iniquité de l'époux vis-à-vis de ses différentes épouses. Elle vient de nous dire que quand elle prépare, le mari ne mange pas, elle ne s'occupe pas d'elle. Et cela me fait dire que certainement, c'est la résultante de la préférence qu'il a vis-à-vis de l'autre que par rapport à elle. Donc,
oui, mais
on peut, sans risque de se tromper, que certainement, le mari ne fait pas preuve d'égalité à l'égard de ce femme.
Oui, mais donc, que pensez-vous de ses parents qui refusent de l'écouter, qui lui disent à chaque fois d'être patiente, de retourner chez son mari? Qu'est-ce que la loi peut dire concernant ses parents qui refusent d'écouter leur enfant, qui vivent des situations vraiment difficiles dans leur foyer?
Oui, vous savez, dans notre système juridique, et généralement, une femme mariée, elle est majeure. Elle est majeure, même si elle n'était pas majeure au moment du mariage. Par le mariage, elle acquiert l'émancipation. C'est-à-dire, elle devient majeure par le mariage. Voilà. Donc, de ce point de vue, si elle éprouve des problèmes dans son foyer, c'est vrai, nous sommes dans une société imprégnée par la culture islamisée. Le premier recours qu'on fait, c'est d'aller se confier à ses parents par rapport à l'issue du problème. Mais, en tout cas, du point de vue juridique, puisqu'elle est majeure, elle a le droit de son propre chef, de son propre gré, de porter le problème au niveau des autorités.
D'accord. Oustaz, qu'est-ce que vous pensez de ce que Maître Moutar vient de nous dire par rapport à ce témoignage qu'on vient d'écouter, surtout des parents qui incitent leur fille à rester dans un foyer où elle n'est pas heureuse? Que dit le Coran?
Ici, il y a une rupture d'équité consacrée par la faute du mari. En ce moment-là, il est passible de toutes les punitions. Il peut les dénoncer. Elle ne va pas se fâcher parce qu'elle devrait se battre pour arracher son droit. Donc l'islam a dit que dans ces cas précis, effectivement, c'est les parents ou bien son responsable qui a officié les mariages qu'il faut voir. Et l'islam a dit que dans ces genres de cas-là, c'est de faire venir les responsables de l'homme et les responsables de la femme pour qu'ils s'assient et tranchent et faire les choses pas à pas. Maintenant, si ça arrive à un niveau où la cohabitation est impossible, l'islam ordonne effectivement, comme font les juges, n'est-ce pas, donc de leur donner un délai, n'est-ce pas, donc dans le cadre de conciliation, donc de leur donner un délai de réflexion, de les séparer.
Donc la femme elle-même peut aller voir les personnes qui peuvent trancher, parce qu'elle dit que ses parents refusent de l'écouter.
Bon,
quand elle va, ils lui disent de retourner chez son mari.
Mais vous savez, c'est pourquoi, dès le début, je vous ai dit que la question des mariages, les parents n'ont rien à voir avec ça. C'est entre l'homme et les choses. Maintenant, c'est les responsables. Est-ce que c'est le père ou la mère qui officie les mariages? Non, c'est un oncle, c'est quelqu'un, vraiment un ancien, un respecté, ou un des membres de la famille, de son père ou de sa maman. S'il l'a jeté, parce que c'est des engagements qu'on prend. Je suis venu demander ta fille en mariage. Je m'engage à lui faire ceci. Si ça manque quelque chose, tu réagis, tu dis, et en cas de ceci, en cas de, si elle ne reste pas tranquille, je vais vous informer. Mais s'il ne l'a pas fait, ça veut dire qu'il est passible de toutes les punitions. Les parents, en ce moment, n'ont pas les choses. Maintenant, c'est pourquoi, dans un autre hadith, il y a une femme, une jeune femme, qui a porté plainte contre son oncle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'appelle Hansa.
Donc, elle était dans un foyer polygame.
J'arrive, je vais vous expliquer pourquoi. Elle a porté plainte chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit au prophète d'Allah, voilà mon oncle vient me marier à un homme que je n'ai pas le consentement, je n'ai pas donné mon consentement, que je n'aime pas, qui est plus âgé que moi, qui est arrogant, qui est ceci, qui est cela. Avant même de rentrer, elle a réagi. C'est valable pour celle qui se trouve déjà dans le foyer. Et le prophète a dit, il a fait venir ce type-là. Il a dit que tu as raison, le mariage, c'est toi qui décides, pas les parents. Et après, elle dit que j'accepte, j'ai fait ça, c'est pas pour contester mon oncle, mon parent. Je les respecte, mais j'ai fait ça pour que les parents sachent qu'ils n'ont pas d'injonction dans les liens de mariage, dans notre cohabitation avec notre mari. Donc c'est comme ça. C'est pourquoi le consentement, l'islam insiste sur le consentement. C'est-à-dire le consentement, là, c'est ça qui détermine les mariages entre les choses. Quand tu te sens un peu serré là, mais c'est pas un parent qui va dire que non, retourne si tu veux, il faut mourir. Non, c'est pas comme ça. Vous savez, les enfants, même si on est parti à un âge là, Allah a dit dans un verset, Inna Allah yamurkum bi an tu'addul amanati ila ahliha. Allah vous ordonne. C'est un ordre qu'il donne à tout le monde. Nous les parents, n'est-ce pas? De remettre au dépôt ce qui lui revient de droit. C'est quoi le dépôt? C'est les enfants. C'est un dépôt, les enfants, c'est pas une propriété. Donc vous n'avez pas à la chasser. Elle vient de l'enfer. Au lieu d'avoir un certain réconfort, elle trouve un fait beaucoup plus humble que chose. Ou bien on lui dit, non, retourne dans les faits, là, si tu veux, tu n'as qu'à chose. Non, c'est un peu ça
donc,
qu'il faut...
Donc, quelles sont les conséquences qui peuvent émaner si ces droits-là sont bafoués? Et quel est le rôle surtout du mari?
En ce moment-là, si les deux-là, qui ont officié le mariage, se rencontrent, ils peuvent décider de casser ce mariage. Parce que si la cohabitation... Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas l'affection, il n'y a pas toutes les règles que l'islam a établies, que l'homme devrait faire à la femme. Si ça n'existe pas, il n'y a pas une question de mariage, c'est une prison. Donc on casse le mariage. Mais ça, c'est l'extrême, hein, c'est l'extrême. Il faut faire d'abord des conciliations, de séparation. Il y a beaucoup de procédures. Mais en fin de compte, si ça ne marche pas comme elle dit, comme je viens d'écouter là, ça fait des années qu'elle fait ça, depuis que la femme est rentrée, depuis qu'elle est rentrée dans la maison, elle a trouvé la femme, voilà, les brimades, les trucs, et aussi au vu des choses. Je crois que là, on va à l'extrême. Si les deux là se rencontrent, on ne les sépare. Ou alors, il y a d'autres mariages qui sont officiés par les officiers d'état civil, ou un magistrat attitré, ou juge de coutume qui est assisté par des marabouts et des chefs traditionnels. On transporte les choses en cas de défaut de décédés responsables. Donc on transporte les choses là-bas. En ce moment-là, on va faire la part des choses. Parce qu'on ne peut pas vivre un mariage.
Maître Moutard, donc juridiquement, quelles sont les conséquences qui émanent de...
Oui, effectivement. Et je rappelle que les sévices et les certains traitements dégradants sont cause de divorce aux yeux de la loi.
Donc, à votre avis, est-ce que ce mari-là, il est au courant de ce qui se passe dans son foyer ou bien c'est plutôt lui qui envenime la situation?
Bon, ça dépend. Hein. Il ne faut pas tout le temps accuser le mari. Des fois, la faute peut venir de l'épouse. Donc,
qu'il préfère une épouse à
une
l'autre.
Une épouse ou bien d'autres raisons, on ne sait pas. Oui. On ne sait pas. Peut-être c'est l'autre qui espère, qui pense que son droit est violé, peut justifier son comportement par le fait que son mari ne les traite pas de manière équitable.
Bon oui, mais si là ce n'est pas de sa faute, qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe et qu'il remarque, normalement qu'est-ce qu'il devrait faire?
Dans ces cas de figure, madame, vous savez, les questions du foyer, très souvent c'est des questions qui ne sont pas exportables. Les époux préfèrent garder que de confier le secret du foyer aux autres. Il arrive très rarement que des époux viennent se confier à quelqu'un ou bien viennent exposer leurs problèmes à un professionnel du droit. Très souvent, quand il y a un problème au niveau du foyer, c'est toujours la femme qui vient voir les autorités. Et c'est de là que, bon, le mari aura dans tous les cas la parole devant l'autorité.
Bien sûr.
Et c'est de là qu'il va expliquer en réalité ce qui se passe, ce qu'il ignore et ce qu'il sait par rapport au problème.
D'accord. Oui. Oustaz, vous avez écouté ce que Maître vient de nous dire. Si le mari, il est conscient de ce qui se passe dans sa maison et qu'il ne fasse rien, ou bien que c'est lui-même qui envenime les choses?
Non, là, à ce moment, madame, elle s'est mis la chaîne au cou. En matière de mariage, il n'y a pas de demi-mesure. C'est-à-dire, il faut être responsable en tant qu'homme. Ne dis pas que cette situation me dépasse. Je ne suis pas au courant. Non. C'est pas possible. C'est comme, même si ton animal, tu l'amènes, tu dis que non, je n'ai pas si, qu'il n'a pas chose. Non, c'est pas possible. Ça, c'est pas pardonnable. Maintenant, l'islam dit qu'effectivement, il faut convoquer cet homme-là pour savoir exactement. C'est en présence de son parent et des parents de la fille qui ont officié le mariage. Voilà les choses. Et il va parler sur honneur. Si même, on peut même aller jusqu'à les faire gérer. Parce qu'il faut savoir la vérité. On ne peut pas vivre dans une tension. Ça peut être lumineux. Nous, on n'a pas les moyens d'apprécier. Parce que les trucs, c'est des secrets, comme a dit le maître. Donc, c'est des secrets, des choses. Vraiment, vous ne voudrez pas vous faire des invectives, des violences. Ce n'est pas possible. En mariage, ça n'existe pas. L'islam n'a même pas pensé qu'il y ait des gens qui vont à cette action.
Donc, parlant de lien, oustaz, est-ce que le rejet d'une des femmes pourrait empêcher aux autres membres de la famille de tisser des liens, justement, affectifs, stables, notamment les enfants surtout?
Pas du tout. Pas du tout, parce que vous savez, c'est comme on dit, même dans les jargons des Français, on dit que vous êtes la communion, vous êtes réunis pour les bons et pour les mieux et pour les pires, ou comment on dit. C'est la même chose, c'est-à-dire on ne se marie pas sans amour. C'est pourquoi Allah a dit que dans l'amour, il faut vivre en tranquillité. On se marie, c'est pour avoir le repos de la conscience, la tranquillité, pour que vous viviez en tranquillité, c'est-à-dire... Si elle est malade, tu la guérisses avant que même ça s'envenime ou bien ça sorte de la maison. Et maintenant, en cas de rejet, il y a aussi la protection morale et de sa chasteté que l'islam a prévue. Donc, quelle que soit la situation, la femme devrait... Les innocents sont protégés en islam, en quelque sorte. Quoi. Parce que la femme est prise dans les catégories des innocents. Dans ces cas précis, s'il y a une certaine violence... Quel que soit son degré, il devrait être protégé par la communauté, à commencer par sa famille. Si sa famille la rejette, eh bien, ils seront coupables d'un péché que Allah ne pardonne pas. Et que si elle porte ça ailleurs, chez les juges traditionnels, il va citer ce que le prophète a dit et ce que le prophète a pratiqué. Parce que le prophète a jugé entre des maris et leurs femmes. Il a jugé entre les enfants et leurs parents. Il y a des jugements à porter. Mais ce sont des jugements qui vont toujours vers la protection d'abord de la moralité, de la personnalité, de la chasteté de la femme ou de l'enfant. L'innocent est toujours protégé par la loi islamique. Donc, on ne peut pas, vous n'avez pas le droit de la jeter. Vous allez la prendre à bras ouverts. Même si ce n'est pas sa famille, si elle demande de refuge quelque part, eh bien, elle est en immunité, obligatoirement.
D'accord. Donc, maître. Souvent, la famille s'engage dans une instabilité destructrice. L'impasse et le chaos s'installent alors. Donc, quel impact sur la vie de cette femme sur le plan psychologique et qu'est-ce qui pourrait lui arriver?
Exactement. De ce conflit répétitif peuvent survenir des conséquences liées aux violences psychologiques. Et ces violences psychologiques sont très insupportables pour les femmes qui les subissent. Et... quand cela arrive, le conseil qui est généralement donné à la dame, c'est de se confier, d'aller saisir les autorités. Ici au Niger, Dieu merci, si c'est des comportements que la loi pénale réprime, il y a une unité d'enquête qui est logée au niveau du commissariat central, ce qu'on appelle la brigade des mineurs et des femmes. Cette brigade s'occupe même des problèmes que les femmes rencontrent. Elle peut aussi aller s'adresser au niveau de la Commission nationale des droits humains pour faire part des problèmes qu'elle rencontre.
Vous arrive-t-il à rencontrer des femmes qui vivent ces cas, qui viennent vers vous et qui psychologiquement ne sont pas...
Généralement, à cette étape, très rarement, les femmes viennent consulter un professionnel du droit ou un avocat généralement. Elles partent au niveau donc des structures des droits de l'homme. Là, elles reçoivent des conseils, des procédures, des voies qu'elles peuvent suivre pour y remédier.
D'accord. Pour illustrer un peu la situation de ces femmes esclaves, entre guillemets, dans leur propre foyer, je vous propose de suivre le portrait d'une femme à Agadez qui, selon elle, souffre d'un sentiment de privation de l'autonomie à cause de sa coépouse.
Née à Mayeyi, Achoute Bawa est une femme âgée de 27 ans. Quelques années plus tard, sa famille est venue vivre à Agadez. Après ses études coraniques, Achoute est mariée à un de ses cousins. Et malgré les liens parentaux, Achoute Bawa se voit maltraitée par sa coépouse. Elle raconte.
Quand je suis venue chez mon mari étant jeune mariée, j'ai trouvé ma co-épouse, mais tout se passe bien. Et malgré que nous sommes deux, c'est moi seule qui fais tous les travaux domestiques, la cuisine, la lessive, etc. Cette situation dura jusqu'au moment où j'ai eu des enfants et rien n'a changé. C'est toujours elle qui commande.
Plusieurs fois, Aïchatou s'est plaint auprès de son mari, mais ce dernier lui demande de patienter.
Elle fait tout ce que bon lui semble. Même si j'informe mon mari, c'est peine perdue. Il ne peut rien faire. Même quand ses enfants s'en prennent aux miens, les tiens ont toujours raison. C'est vraiment une situation désastreuse dont nous faisons face. Mon mari, moi et mes enfants. C'est elle qui nous gouverne tous. Mon mari ne peut rien dire. Je ne comprends pas. Elle a peut-être ensorcelé. Je ne sais pas. Mais c'est elle qui a le dernier mot.
Compte tenu de la situation, est-ce que Achotbawa a cherché des voies de recours?
Depuis que j'ai mis pied dans cette maison, je suis que nous ne sommes pas au même pied d'égalité. Comme je suis nouvelle, je suis jeune mariée et j'ai trouvé que c'est ma copine qui contrôle tout. Étant très jeune, je me suis habituée à leur mode de vie. Mais j'ai commencé à prendre conscience quand j'ai eu mes enfants.
Étant mère de plusieurs enfants, Achotbawa décide de se ressaisir, car la situation n'a que trop duré.
Ce vécu de privation d'autonomie peut-elle éteindre sur le sentiment de dignité et de confiance de cette femme et de ses enfants, Oustaz?
Bien sûr, ça c'est même inimaginable. Parce que je vous dis qu'un homme dans un foyer conjugal, c'est que s'il ne s'acquitte pas de certains devoirs, c'est qu'on ne l'appelle plus homme. Il n'est pas digne d'être homme. C'est pourquoi la loi islamique donne même le droit de casser le mariage à un certain moment. Parce que l'islam veut que tu sois responsable. C'est un engagement que tu prends. Je vous dis, il n'y a pas d'échappatoire. En islam, un homme, il a le pouvoir et il supporte le plus gros poids. Le moindre glissement vers l'une des parties sera fatal. C'est clair. C'est clair. C'est-à-dire que quand ça va devant un juge traditionnel, islamique bien sûr, il va lui faire cas de ça. Et quand elle va elle-même, si lui il refuse, on va lui faire savoir que ça, c'est pas digne d'un mari. Donc, à ce moment-là, l'islam interdit de vivre avec ce genre de gens qui n'ont pas de responsabilité. Ça n'a pas de sens. Donc, D'accord. On casse les choses. Maintenant, si elle va vers la communauté ou vers une voie de recours-là et qu'elle ne trouve pas, ça aussi, cette voie de recours-là sera appréciée par Allah parce que elle est venue chercher le secours. C'est pour arranger son foyer ou pour avoir un certain réconfort. Mais si tu ne le fais pas, en ce moment, tu fuis tes responsabilités et tu seras comptable de ces péchés parce que c'est un péché. La responsabilité, c'est quelque chose de très important en islam, madame.
D'accord. Maître, est-ce que ce vécu de privation d'autonomie peut déteindre sur le sentiment de dignité et de confiance de cette femme et de ses enfants?
Oui, cette femme qui fait part de ses difficultés à vivre dans un couple polygame où c'est la première épouse qui contrôle tout, c'est la première épouse qui décide de tout, et que le mari qui normalement dans un foyer patriarcal où le mari doit incarner l'autorité, n'use pas de cette prérogative que la loi lui a accordée, cette femme... Vraiment,
les mots vous manquent.
Mais manque quoi? Elle est vraiment dans une situation où on peut dire que le mari a vraiment abandonné son autorité et que le seul moyen pour elle, c'est de d'abord se confier à ses parents, aux parents du mari même, pour expliquer vraiment la situation qu'elle éprouve.
Qu'en est-il de sa dignité surtout et de sa confiance en elle?
Ah oui, sa dignité, elle est bafouée. Elle est bafouée à mon avis, puisqu'elle est mariée par un homme et non par une dame. C'est l'homme qui doit agir de son autorité et de décider de tout au niveau du foyer et non la première épouse.
Nous avons écouté là des témoignages et un portrait. Donc, globalement, dans tout ce qu'on vient de voir là, peut-on parler alors d'un esclavage moderne pour ces femmes qui vivent des situations similaires, Oustaz?
En tout cas, ce n'est pas loin de là. Parce que vous savez, le mariage, en mariage, il n'y a pas d'esclavage. Et la femme devrait être bien entretenue. C'est-à-dire, on devrait lui faire tous les services possibles. L'islam n'imagine même pas ce genre de choses-là. Parce que les frustrations en islam, simple frustration envers la femme et les enfants, la catégorie des innocents, n'est-ce pas, est réprimée en islam.
D'accord. Donc si elle vit ces situations-là, est-ce qu'on peut dire qu'elle est esclave? Est-elle esclave dans son propre foyer?
Dans des extrêmes situations comme ça. Là. Quelqu'un qui est en prison, il est dépourvu de son chose parce que ce n'est pas pour le bonheur évoqué par l'islam. C'est malgré elle, c'est un enfer qu'elle vit, c'est une prison. Une prison, c'est une privatisation des choses. Donc l'esclavage, c'est encore d'autres choses. Donc dans les foyers conjugaux, une femme qui vit cette situation-là, c'est une prison. C'est une prison. Maintenant, de là, pour dire que c'est un esclavage moderne ou pas, de toute façon, s'il y a les liens de mariage, là, on ne parle pas de ce genre de choses, on ne parle pas d'esclavage, mais on parle plutôt de violation de la dignité, et ce qui est tout à fait puni par la loi islamique.
D'accord, maître, vous avez écouté ce que Oustaz vient de nous dire. Que pensez-vous de ces femmes qui vivent ces situations? Peut-elle être qualifiée d'esclave moderne ou pas?
Je ne parlerai pas d'esclavage ou au moindre cas d'esclavage moderne, mais je parlerai plutôt d'une situation dégradante que vit cette dame et que la solution doit être trouvée par le mari, puisque c'est lui qui l'a épousée. Elle n'est pas sous l'autorité de son épouse, elle est sur son autorité. Il n'y a pas d'esclavage ici, puisque l'esclavage, c'est encore une situation plus complexe, plus compliquée et plus grave que celle qui vient de nous faire témoignage, la dame qui vient de passer.
Et que prévoit la loi, maître, pour que ces femmes puissent s'en sortir?
Comme nous sommes dans une société où le consensus doit d'abord prévaloir sur tout, très généralement, ces dames se confient aux deux parents, ses propres parents et les parents de l'époux. Et c'est au cas où les choses ne s'améliorent pas, qu'elle fasse recours aux autorités pour expliquer les difficultés qu'elle rencontre. Au pire des cas, elle saisisse les autorités judiciaires, surtout quand les actes subis dans le foyer peuvent recevoir des qualifications pénales. Parmi ces actes, si c'est des coups et des blessures qu'elle subit, la loi a prévu des sanctions pour cela.
Oustaz, il y a une autre situation que l'on retrouve dans certaines familles, notamment en milieu rural, où on parle de la cinquième épouse, appelée Wahaya. Est-ce qu'on peut qualifier cette pratique courante chez certains notables de légal?
Vous savez, pour les princes, pour les rois, pour les choses, c'est permis.
Est-ce que la loi coranique le permet?
Non, la loi coranique vous a limité à 4, pas plus. Si tu ajoutes un plus, c'est déjà un péché. Donc, la loi ne parle pas de la loi islamique dans ce, parce que le verset est clair. Il dit que il sait, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a créé, c'est votre degré d'équité. Il dit que si vous, avec les quatre là, si vous savez que vous ne pouvez pas de retourner vers une, parce qu'il sait que dépasser les quatre là, ce serait même quelque chose de très extraordinaire, parce que l'homme là n'est pas fait pour supporter cinq. C'est pas possible. Ça, généralement, on parle de wahya chez les rois, c'est chez les chefs qui utilisent le pouvoir. Mais de l'autre côté, l'islam préfère que de la laisser aller faire des tripitudes ailleurs pour se nourrir, de la conserver comme femme dans le foyer. Même si elle est une cinquième, même si elle va avoir un statut d'esclave parmi les femmes, le mieux serait de l'épouser. En ce moment, qu'est-ce que l'islam dit? L'islam dit que sa déclaration, parce que tu ne vas pas la prendre comme on fait, mettre de la maison comme ça. Non. La déclaration, parce que tu ne connais même pas ses parents. Dans le cas d'esclavage, tu ne connais pas les parents. Donc, quand il la déclare, c'est déjà le prix de son affranchissement.
Donc, est-il judicieux de l'appeler esclave parce que ces femmes sont qualifiées d'esclaves?
Dans le verset, les termes consacrés par la Sainte pour protéger effectivement la moralité, la dignité de la femme, Allah n'a pas utilisé le mot esclave. Il dit Auma malakata imanukum, ou alors désigné parmi les propriétés que vous avez de votre main droite.
Donc elles ne sont pas esclaves, comme le disent les gens.
Non, elles ne sont pas esclaves. Elles sont femmes et elles sont traitées comme telles. Mais à des conditions bien précises. C'est-à-dire, c'est hors l'angle de la loi islamique qui a institué le mariage en tant que tel. Parce que là, ce n'est même pas un mariage. On les prend par autorité. C'est pourquoi l'islam prévoit ça chez les chefs.
Donc l'islam ne reconnaît pas la cinquième femme en fait.
Mais le verset est clair, madame.
D'accord. Et maître, est-ce que la loi reconnaît la cinquième femme?
Oui,
juridique.
Bon, par rapport aux questions relatives au mariage, la loi a dit que c'est la coutume qui s'applique aussi au Niger. Oustaz vient de le dire, nous pratiquons la coutume islamisée et que l'islam a permis à un homme d'épouser jusqu'à 4 femmes. Maintenant, qu'un homme épouse plus de 4 femmes, Oustaz vous a dit c'est hors les cas prévus par la loi islamique. C'est ça.
Donc,
mais je vous fais part d'un fait qui s'est produit il y a 10 ans de cela, un cas de la pratique de la wahaya, donc une dame qu'on appelle Aminatou Mani Koro, donc avait saisi les autorités judiciaires de ce qu'elle vivait chez son époux, en quelque sorte, entre guillemets. La justice nigérienne a pensé que cette dame, vu les conditions dans lesquelles elle a vécu dans ce foyer, ses droits ont été violés. Cette affaire a été même portée devant même la cour de justice de la CEDEAO. La cour de justice de la CEDEAO, dans son arrêt, a condamné l'État du Niger à payer à Dame Aminatou Mani Koro des dommages intérêts parce que, selon elle, selon la cour, l'État du Niger n'a pas protégé les droits de Aminatou Mani Koro. Ces droits de l'homme en tant qu'homme ont été violés selon la cour.
Donc, pensez-vous que ces pratiques doivent être bannies?
Ah, elles doivent être bannies puisque la plupart des cas, ces femmes vivent une situation très différente des épouses. C'est très différent, honnêtement. Hein?
D'accord.
C'est très différent.
Et vous,
je crois
Oustaz,
que...
est-ce que ces droits-là doivent être bannis? ces pratiques plutôt.
C'est pas doit être déjà banni. Parce que moi, pour moi, là, vraiment, toi-même, la femme, tu devrais savoir que tu n'es pas mariée.
Mais puisqu'on continue de voir ça encore dans la société.
Mais vous savez, l'homme, il est secret. Il peut ne pas reconnaître quoi que ce soit. Nous parlons de l'arsenal juridique, que ce soit islamique ou moderne, qui sont là. Ce sont des règles sociales qu'on ne peut pas modifier. Si quelqu'un la modifie exprès, ça, on ne peut pas le classer parmi les... C'est pourquoi je dis que ce n'est même pas un mariage, ça. On ne peut pas se considérer comme une femme mariée. Parce que tu es venu faire quoi, alors? Parce que tu sais que même si c'est l'affection que tu vas chercher, tu ne l'auras pas. Quand est-ce qu'il a le temps d'avoir l'affection sur l'autre, sur la deuxième, la troisième, la quatrième, avant même de venir chez toi? L'autre même peut lui dire que quand tu vas là-bas, là, ne reviens plus chez moi, là, et il est obligé de ne pas aller chez toi. Donc tu n'as aucun droit. Ce n'est pas basé sur des règles où on peut, en cas de problème, quel que soit ce que tu fais, même s'il crache sur toi, on n'y peut rien, même si on va chez les juridictions. On va
elle
dire que non, non.
Elle est obligée de supporter.
Ça, c'est clair.
D'accord. Donc, quel appel lancez-vous, surtout au foyer polygame?
Vraiment, c'est de considérer qu'on se marie pour les meilleurs et pour les pires, comme on dit. Et de penser toujours à ce verset-là qui dit que nous vous avons créé de vous-même et pour vous-même des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et nous avons mis entre vous les liens d'affection et de pitié. Le foyer conjugal devrait faire l'équité par tout le monde possible. Et c'est possible parce qu'on s'est déclaré amoureux, fiancé, et dans les pires des cas, tu connais sa valeur, elle connaît ta valeur. Et l'islam a toujours dit que, quel que soit le nombre de femmes que tu vas prendre, les mêmes négociations d'avant mariage qu'il faut faire, les engagements qu'il faut prendre, il faut les faire de la même manière.
D'accord.
Donc, protéger la chasteté de toutes les quatre femmes, c'est permis. Mais si tu sais, si tu te mesures, tu dis que vraiment je ne peux pas, une telle là, Hawa ou parmi les autres là, je ne peux pas la maîtriser, eh bien contente-toi d'une seule.
Maître, quel appel est-ce que vous lancez aux familles polygames?
L'appel que je laisse aux familles polygames, c'est d'appeler à ce que l'époux qui consacre vraiment l'autorité morale du foyer, qu'il use véritablement de ce pouvoir. Tout part de là. Et tout dépend de comment l'époux, le mari, gère ses épouses, gère ses enfants, gère son foyer en définitive.
D'accord. Et s'il ne peut pas aussi de se contenter d'une seule femme?
S'il ne peut pas de se contenter d'une seule femme. Et là aussi, il doit encore jurer de son autorité.
D'accord. Donc, avant de terminer le forum de ce soir, je vous propose notre rubrique Affairage, une causerie féminine entre femmes en vue d'informer et de sensibiliser.
Affairage.
Mon Dieu. Aïe, j'en peux plus.
Mina, que se passe-t-il?
Non, laisse-moi d'abord retrouver mes esprits. Et Allah.
Mais qu'est-ce qu'il y a?
C'est un adolescent qui vient de se faire renverser par une voiture.
Mon Dieu, c'est grave?
Oui, apparemment. Fallait pas voir la scène, le choc était très violent. Il courait trop vite. Il paraît même qu'il s'est disputé avec son père et ce dernier l'a mis à la porte.
Le pauvre garçon, j'espère qu'il va s'en sortir. Tu vois, c'est ça le problème de certains parents. Au lieu d'essayer d'arranger le problème avec leurs enfants, ils les empirent. Peut-être que ce garçon ne serait pas en ce moment entre la vie et la mort si ses pères s'y étaient pris autrement.
Tu sais, les enfants sont parfois incontrôlables, surtout pendant l'adolescence. C'est pour cela que je redoute le jour où j'aurai moi mon enfant.
Je ne vois même pas pourquoi tu t'inquiètes. L'essentiel, c'est de leur consacrer du temps, discuter avec eux et les conseiller. C'est le seul moyen pour mieux connaître nos enfants. Force est de constater que le temps consacré aux enfants reste inégalement réparti entre hommes et femmes. Selon les experts, les mères consacrent en moyenne 2 fois plus de temps aux enfants que le père.
C'est normal, toi aussi. C'est parce que les pères n'ont pas le temps. Ils doivent aller travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Donc c'est normal que la femme, ce soit elle la mère qui éduque l'enfant.
Mina, qu'est-ce que tu racontes là? Il n'y a rien de normal dans cette façon de faire. Le papa doit s'impliquer autant que la maman. Il est primordial qu'un enfant garde un sentiment d'importance pour développer son instinct personnel. Comme cela, des querelles ou des conflits peuvent être évités.
Ah bon, Salmou? J'ignorais tout ça. Comment faire alors? Explique-moi.
Tout d'abord, prends le temps de lui faire ressentir l'importance qu'il revêt à vos yeux par des petites attentions, des gestes et des paroles nourrissantes.
Comment donc lui montrer qu'il a de l'importance à mes yeux?
Il faut consacrer du temps à l'enfant. Il a besoin de moments privilégiés seul avec l'un ou l'autre de ses parents. Si ces instants ne lui sont pas accordés, il pourrait adopter un mauvais comportement, surtout avec les adolescents. Faites l'effort d'être plus présent. Ainsi, vous allez mieux établir avec vos enfants une communication de qualité.
Voyou Allah, c'est probablement le manque de tout ceci que tu viens de m'expliquer qui a provoqué cette dispute entre cet enfant et son père et qui a dégénéré. Allah, sorki.
On peut améliorer la relation même si elle se dégrade, car il n'y a pas plus important entre parents et enfants que de développer une bonne relation. Ainsi, quand vous avez toute l'attention de votre enfant, vous pouvez aborder tous les sujets sans tabou.
Seulement, si je comprends bien, plus je donne de l'importance à mon enfant et plus j'en reçois de sa part. Mais souvent, les parents n'ont vraiment pas le temps avec eux. Je culpabilise déjà à cette idée.
Ah oui, sache que ce n'est pas la quantité mais la qualité qui compte. Quelques minutes par jour suffisent tant que le plaisir est réellement partagé. Rien ne sert d'être auprès de son enfant pendant des heures. Si l'un n'a l'esprit ailleurs, ils peuvent le vivre comme un abondant.
Oui. Il faut vraiment une dose de patience et d'énergie pour élever un enfant. Hein?
Je sais. Le pleur des bébés, les provocations de l'adolescent, le travail, les tâches ménagères et les activités sociales nous font perdre le contrôle. Mais quand même, certaines résistent assez bien et d'autres moins bien. Mais faisons quand même des efforts.
En tout cas, Salmou, j'ai pris une très bonne note et je pense que le moment venu, je serai à la hauteur. Merci ma chérie pour ces bons conseils. Tu es vraiment ma bonne psychologue.
Ah, oui ma chérie, un homme prévenu en vaut deux.
En tout cas.
Donc, bien que l'islam a permis à l'homme d'avoir jusqu'à 4 épouses, il doit être strictement impartial envers toutes ses épouses, sur tous les plans, bien que cela peut s'avérer difficile parfois, selon nos invités. Nous retenons donc que l'esclavage dit moderne n'existe pas dans un foyer polygame, que cela doit juste être qualifié de surexploitation et que la pratique de la wahaya, qui est le fait de prendre une 5e épouse, doit être bannie, n'est-ce pas, monsieur Oustaz et maître? D'accord. Donc, pour discuter de cette thématique sur l'esclavage moderne d'une femme dans les foyers polygames, nous étions avec maître Moutari, avocat au barreau du Niger, et Oustaz Mustapha Ahamadou. Merci, chers invités, de nous avoir honorés de votre présence. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous des programmes de Studio Kalangou demain à partir de 17h. C'était Rafika Taher à la présentation et Mustapha Ayouba à la technique.